Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On est toujours dans le thème de l'unité de l'Église. Et le troisième élément qui semble être à la source de cette unité de l'Église, c'est son âme. Il paraît que l'Église a une âme. C'est ce qu'on lit au numéro 813. Quelle est cette âme qui est cette âme?
C'est l'Esprit Saint qui est l'âme de l'Église, répond Léon XIII d'une manière très nette, avec ses capacités de synthèse qu'il avait, qui étaient très grandes. Et cette formule donc est restée dans le cœur de l'esprit de l'Église, des saints-pères qui ont suivi Léon XIII, qui ont répété cette belle formule que l'Esprit Saint était l'âme de l'Église. Et je crois qu'il nous a mis sur la route pour nous aider à comprendre que l'Église était composée de deux éléments, dira le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, un élément humain et un élément divin. Et d'une certaine manière, l'analogie de l'âme et du corps aide bien à comprendre la partie spirituelle, surnaturelle de l'Église, cet élément divin, par rapport à la partie, je dirais, temporelle, visible de l'Église qui se déroule au cours de l'histoire. Et ces deux éléments peuvent être, d'une certaine manière, analogués avec le rapport de l'âme et du corps. L'âme est invisible, l'âme est cachée, et pourtant elle impulse un esprit au corps. C'est le corps qui est mu par l'âme. Et c'est cela que les saints-pères ont voulu dire en disant que le Saint-Esprit était l'âme de l'Église.
Donc au 813, on dit que la Sainte Trinité est à la source de l'Église, que le Christ en est le fondateur et que l'Esprit-Saint est l'âme de l'Église. Et pour ces trois raisons, on a en conclusion cette phrase, il est donc de l'essence même de l'Église d'être une. Que veut dire le mot essence?
Donc l'essence, c'est ce pourquoi un être est être. C'est une abstraction donc du fait d'être, l'essence, et s'en donne en même temps la définition. Et la définition donc est difficile pour un mystère, puisqu'un mystère ne peut pas à proprement parler se définir, mais il peut au moins s'expliciter à travers les mots de la révélation et à travers la réflexion issue des mots de la révélation. Et nous comprenons bien que l'unité de l'Église se tire de l'unité même du mystère trinitaire, eh bien il y a une compréhension, je dirais, de l'Église à travers le mystère de l'unité qui est très grand, puisque la première chose que l'on dit de Dieu, c'est qu'il est un. Vous vous souvenez, dans le credo, nous disons « je crois en Dieu, en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant ». Donc je commence toujours par cette unité pour bien manifester le mystère de Dieu. Eh bien, pareillement, mutatis mutandis, comme on dit, en changeant ce qui doit être changé, puisque c'est une réalité aussi humaine, pas seulement divine, que l'Église, eh bien, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là que l'on peut dire être l'essence de l'Église, d'être une à l'image du Dieu un.
Au 814, le catéchisme continue, développe ce sujet sur l'unité. Il dit « Dès l'origine, cette Église une se présente cependant avec une grande diversité qui provient à la fois de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des personnes qui les reçoivent. » Donc on retrouve cette expression qui est un peu mise à toutes les sauces, « unité dans la diversité ». Est-ce que c'est bien qu'on l'ait ici? Est-ce que c'est pas un peu réducteur ou un peu dommage d'utiliser une expression mise partout pour l'Église.
Alors, c'est vrai que c'est la devise de l'Europe, un dans la diversité, c'est cette expression qui a été utilisée, mais il est vrai qu'il s'agit par derrière d'une dévaluation des mots par rapport au latin et au grec, puisque en latin, diversus, et l'équivalent en grec, signifie une différence pour laquelle il n'y a rien de commun. Et d'une certaine manière, ce rien de commun est absolument drastique, c'est-à-dire je ne peux rien trouver de commun quand j'utilise des expressions diverses. Par contre, je peux utiliser une expression plus souple qui permet à la fois de la variété et en même temps de l'unité, c'est le mot « différence ». Et on a fini par faire équivaloir le mot « diversité » et le mot « différence », ce qui fait qu'on n'a plus de mots pour dire ce qui est radicalement différent. Et on n'a plus que le mot « différence » est égal au mot « diversité ». C'est un grand affaiblissement du vocabulaire français, une perte de sens, et il faudrait beaucoup plus dire dans des expressions comme celle-là que cette Église, une, se présente cependant avec une grande variété qui provient à la fois de celle des dons et de la multiplicité des personnes qui le reçoivent.
Ah oui,
mais... voilà, ce serait beaucoup plus juste d'utiliser, parce que divers signifie étymologiquement ce qui n'a aucun rapport. Or, justement, on veut montrer qu'il y a une pluriformité légitime. Et d'ailleurs, le synode de 1985 s'était penché 20 ans après la fin du Concile Vatican II sur ces expressions de diversité. Et les pères du synode de 1985, que Jean-Paul II avait convoqué, avait noté qu'il fallait lutter contre le pluralisme diviseur, mais au contraire défendre la pluriformité légitime. Et c'est ça qui est la bonne expression. C'est le mot pluriformité légitime. Par exemple, pluriformité légitime des rites, pluriformité légitime des expressions théologiques, mais autour de la même unité, de la même vérité, de la même charité.
C'est rassurant, donc ça veut dire qu'on n'a pas tous besoin de se ressembler les uns les autres, on n'a pas tous besoin d'être mis dans la même norme liturgique ou même pour pouvoir former une unité. Donc c'est là où on voit, il est question donc des dons, des cultures, des peuples, des charges, mais aussi il est question des églises particulières qui jouissent de leur tradition propre. Ça veut dire qu'il y a des églises qui ne se ressemblent pas, mais qui forment une unité dans l'Église universelle catholique ?
Alors si, elles se ressemblent nécessairement, puisque c'est Jésus qui fonde les églises particulières, et dans chacune d'elles, on peut dire que l'âme de chacune de ces églises particulières, c'est le même Saint-Esprit, un et le même. Donc il faut toujours revenir à un point commun. Et c'est là où le mot « divers » est inexact, puisqu'il signifie par lui-même une distance qui est infinie, en quelque sorte. Alors que pour ce qui est des églises particulières, c'est un et le même Christ qui les fonde, c'est un et le même Christ qui nous les donne, c'est un et le même esprit qui les anime. Et donc on peut dire qu'il y a une communauté dans cette variété. Au sein de la communion de l'Église, il existe légitimement des églises particulières jouissant de leur tradition propre, d'où le mot pluriformité légitime qu'il faut souvent répéter pour que on comprenne que l'Église n'est pas uniformiste. Elle n'est pas uniciste. Uniformiste, ça veut dire qu'il faudrait que tout le monde soit calibré pareil, fasse pareil, se comporte pareillement. Non, nous sommes dans une pluriformité légitime, mais légitimée par le Saint-Esprit, légitimée par les autorités de la Sainte Église.
Qu'est-ce qu'on vise par Église particulière ? C'est des... Ça correspond à quoi?
Alors, les églises particulières donc, correspondent exactement à l'extension de l'église à partir de Jérusalem, qui est la première église, l'église mère en quelque sorte, et c'est cette extension catholique de l'église qui a parcouru le monde à travers les différentes fondations comme Antioche, comme Alexandrie, hein, qui ont été les grandes métropoles en dehors de Jérusalem, et puis Rome, assez vite, et toutes les autres églises particulières fondées par exemple par saint Paul, quand il parle des Colossiens, des Éphésiens, des Corinthiens, des Athéniens, etc. Tout ça, ce sont des églises particulières dans laquelle, eh bien, il y a l'Église, le ferment de l'Église universelle, puisqu'il y a cette unité de base dans une pluriformité légitime.
Et aujourd'hui, il y a encore des églises particulières ?
Oui, on peut dire que chaque diocèse est une église particulière, avec à sa tête l'évêque qui est chef de cette église particulière, et il y a inhérence dans son église particulière de l'église universelle, ce qui lui permet d'être en communion avec toutes les autres églises particulières. Et quand il y a un rassemblement d'évêques autour du pape, eh bien, c'est la joie de toutes ces églises particulières qui se retrouvent unies dans cette église universelle.
Ok. Au numéro 814, à la fin, donc on a appris aujourd'hui et la dernière fois que l'essence même de l'Église, c'est d'être une, mais on lit ce passage de saint Paul aux Éphésiens qui dit « Gardez l'unité de l'Esprit par le lien de la paix ». Alors, pourquoi faut-il garder l'unité si c'est l'essence même de l'Église ?
Eh bien, c'est qu'il y a bien sûr l'unité qui est un don, mais un don, on peut malheureusement ne pas toujours être fidèle à ce don et provoquer des divisions. C'est ce que saint Paul avait remarqué dans cette église particulière des Corinthiens, c'est que certains disaient « moi je suis à Apollos, moi je suis à Paul, moi je suis à Jésus, etc. » Et donc la division peut vite se fomenter en quelque sorte dans le cœur de certains, et qu'il faut lutter sans cesse pour garder ce don de l'unité.
Merci. Merci. À la semaine prochaine.